Chapitre 7. La séance gratuite débutait à la tombée de la nuit, mais les spectateurs commencèrent à arriver au square du kiosque à musique alors que le soleil s'attardait encore dans Main Street comme un chat roux répugnant à quitter un trottoir chaud. Les fermiers et leurs familles se garèrent en marche arrière dans le parking adjacent au square de façon à avoir une bonne vue lorsque le film serait projeté sur le mur du Parkside Café. Puis, ils allèrent pique-niquer sur l'herbe ou bavarder avec des amis de la ville qu'ils n'avaient pas vus depuis quelque temps. Les citadins arrivèrent aussitôt après le coucher du soleil, alors que les premières chauves-souris sillonnaient le ciel. La séance gratuite était une tradition locale qui remontait au début de la Seconde Guerre mondiale. Le cinéma le plus proche, le Ewald Palace à Oak Hill, ayant fermé lorsque Walt Ewald, fils du propriétaire et unique projectionniste, s'était engagé dans les Marines. Il fallait alors aller jusqu'à Peoria pour voir un film, ce qui, en ces temps d'essence rationnée, était trop loin pour beaucoup. Aussi, tous les samedis de cet été 42, M. Ashley Montagu père avait-il apporté de Peoria le matériel nécessaire pour projeter les actualités, les publicités pour l'emprunt destiné à soutenir l'effort de guerre, un dessin animé et un film ou deux. Un immense écran était accroché au mur du café. Depuis l'incendie de leur grande demeure et le suicide du grand-père de l'actuel Ashley Montagu, la famille ne résidait plus à Elm Haven, mais les descendants continuaient à y faire de temps en temps une apparition, à contribuer financièrement à quelques entreprises d'intérêt général et à garder un œil sur le bourg dans la plus pure tradition paternaliste et protectionniste de l'aristocratie britannique. Et 18 étés après que le fils du dernier Ashley Montagu ayant résidé à Elm Haven eut organisé la première séance gratuite, c'était maintenant son fils, habitant de Peoria, qui continuait la tradition. Ce 4 juin 1960, la longue Lincoln noire s'arrêta donc à l'emplacement laissé libre à son intention, à côté du kiosque à musique. Monsieur Taylor, Monsieur Sperling et d'autres membres du conseil municipal aidèrent à transporter le gros projecteur jusqu'à la plateforme de bois installée au milieu du kiosque. On étendit des couvertures sur l'herbe, on s'assit sur les bancs du square et on rappela à l'ordre les enfants trop hardis juchés sur les branches des arbres ou blottis entre les pilotis du kiosque. Les plus âgés s'installèrent sur des pliants à l'arrière de leur pick-up et on passa à la ronde des saladiers de pop-corn. Le silence se fit et, tandis que le ciel s'assombrissait au-dessus des ormes, le rectangle de toile accroché au Parkside Café s'illumina. Il était déjà tard quand Dale et Lawrence partirent de chez eux, car ils avaient espéré que leur père rentrerait assez tôt pour leur permettre d'aller à la séance gratuite en famille, mais il avait appelé un peu après 20h30 pour dire qu'il arriverait tard et qu'il était inutile de l'attendre. Leur mère leur avait préparé du pop-corn et leur en avait donné à chacun un grand sac, ainsi qu'un peu d'argent pour s'acheter une boisson. Elle avait aussi recommandé de revenir à la maison dès la fin du film. Ils ne prirent pas leur vélo. Normalement, ni l'un ni l'autre ne seraient allés quelque part à pied s'ils avaient pu utiliser sa bicyclette, mais la courte marche en direction de la séance gratuite était une tradition qui remontait à l'époque où Lawrence était trop petit pour faire de la bicyclette et partait main dans la main avec Dale par les rues silencieuses. Ce soir-là aussi, les rues étaient silencieuses. Il y avait des lampadaires à chaque carrefour, mais le large espace entre deux était noyé dans l'ombre des arbres. Dale aurait bien aimé courir pour ne pas manquer le dessin animé, mais son frère craignait de trébucher sur le sol inégal et de renverser son sac de pop-corn. Aussi marchèrent-ils d'un pas rapide sous les feuilles frissonnantes. Les vieilles maisons le long de Church Street étaient obscures ou seulement éclairées par les lueurs bleues des télévisions. Quelques cigarettes rougeoyaient sous les vérandas, mais il faisait trop sombre pour reconnaître les fumeurs. Au coin de Church Street et de Third Avenue, devant la vieille pension où logeait M. Roone, ils traversèrent la rue en courant, dépassèrent le bâtiment de briques abritant la patinoire maintenant fermée pour l'été, et tournèrent à gauche dans Broad Street.
« Cela me fait penser à Halloween », dit Lawrence d'une petite voix, « comme si des gens déguisés se cachaient dans l'ombre. La ferme !»
À présent, la musique de la séance gratuite leur parvenait nettement. Elle était allègre et métallique, un dessin animé des frères Warner. Derrière eux s'étendait le long tunnel de Broad Street, éclairé çà et là par quelques lumières venues des vieilles maisons victoriennes nichées au fond de leur jardin.
L'église presbytérienne formait une masse pâle et vide au coin de la rue, en face de la poste.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
chuchota Lorenz en s'arrêtant et en serrant contre lui son sac de pop-corn.
« Rien. Quoi donc ?»
Dale s'immobilisa. Un froissement, un glissement ponctué de petits cris aigus venait des feuilles au-dessus d'eux.
« Ce n'est rien. Des oiseaux ?»
Il tira sur la main de Lorenz qui ne bougea pas.
« C'est des chauves-souris. Allez, viens !»
Lorenz semblait enraciné dans le sol.
« Écoute !»
bégaya-t-il. En dépit de son envie de lui envoyer un coup de pied au derrière ou de le traîner par le bras jusqu'au square, Dale tendit l'oreille. Le vent dans les feuilles, les vocalises fiévreuses de la bande-son du dessin animé déformé par la distance et l'humidité de l'air, les battements d'ailes des chauves-souris et puis des voix. L'obscurité frémissante autour d'eux résonnait du grincement de frêles voix suraiguës poussant des cris, des hurlements, débitant des obscénités et des jurons à peine reconnaissables, audibles mais pas tout à fait distincts, comme une conversation entendue d'une pièce voisine. Deux mots, toutefois, étaient parfaitement clairs. Dale et Lorenz restèrent un instant pétrifiés, les yeux exorbités, tandis que les chauves-souris criaient leurs prénoms en faisant crisser les syllabes comme de la craie sur un tableau noir. Très loin de là, la voix du petit cochon retentit.
« That's all, folks !»«
Viens, on court !» murmura Dale.
Jim Harlan était privé de séances gratuites. Sa mère était partie. Une fois de plus, elle avait rendez-vous avec un type à Peoria et bien qu'elle trouvât son fils assez grand pour rester seul à la maison, elle le jugeait trop petit pour sortir seul le soir. Harlan glissa son pantin de ventriloque dans son lit, le visage tourné vers le mur, et ajouta une paire de jeans roulés au bout des jambes, juste au cas où sa mère, en arrivant, se sentirait obligée de jeter un coup d'œil sur son fils. Il n'y avait d'ailleurs pas grand risque qu'elle soit à la maison avant lui, elle ne rentrait jamais avant 1 ou 2 heures du matin. Il prit quelques biscuits dans le placard pour grignoter pendant le film, sortit son vélo et descendit à toute allure Depot Street. Il ne voulait pas manquer le dessin animé, mais il n'était pas en avance. Il avait regardé Gunsmoke à la télévision et il n'avait pas vu la nuit tomber. Les rues étaient désertes, comme de bien entendu. Tous les habitants assez âgés pour conduire, mais assez jeunes pour avoir l'intelligence de ne pas rester plantés ici à regarder la télé ou le film gratuit, étaient partis depuis des heures pour Peoria ou Galesburg. Lui-même serait, dès qu'il le pourrait, le premier à se tirer d'Elmhaven le samedi soir. De toute façon, il n'avait pas l'intention de faire de vieux os dans ce patelin. Soit sa mère finirait par épouser un des mecs avec qui elle sortait, sans doute un mécanicien quelconque qui dépenserait tout son argent en costume 3 pièces, et son fils la suivrait à Peoria. Soit lui-même mettrait les bouts d'ici 1 an ou 2, comme Toby Cook. Bien joué, Bouboule. Ce gamin n'avait pas inventé la poudre, mais il avait quand même eu assez de cervelle pour se barrer. Bien sûr, si l'on pensait au penchant pour la bouteille de son vieux et à l'air stupide de sa mère, Tubby devait se faire tabasser plus souvent qu'à son tour, ce qui n'était pas le cas d'Harlan. Mais Jim avait d'autres problèmes. Il en voulait beaucoup à sa mère d'avoir repris son nom de jeune fille en le laissant affligé du nom d'un père qu'il n'avait même pas le droit de mentionner. Il avait horreur de la voir sortir tous les vendredis et samedis soirs, pomponnée et parfumée, arborant une blouse très décolletée ou cette robe noire moulante qui le mettait mal à l'aise. Comme si sa mère était l'une des filles photographiées dans ses magazines qu'il cachait au fond de son placard. Il détestait qu'elle fume et laisse sur ses mégots des traces de rouge à lèvres. En les voyant, il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle en laissait aussi sur les joues de ses Jules et sur leur corps. Il ne supportait pas non plus de la voir éméchée, surtout quand elle essayait de le cacher en jouant les grandes dames. De toute façon, son élocution et ses mouvements lents la trahissaient, ainsi que ses velléités de tendresse et ses câlineries. Bref, il haïssait sa mère. Si elle n'avait pas été une telle, il reculait devant le mot « putain ». Si elle avait été une meilleure épouse, son père n'aurait pas eu une liaison avec sa secrétaire et il ne se serait pas tiré avec elle. Harlan pédalait de toutes ses forces dans Broad Street en essuyant ses larmes sur sa manche, lorsque quelque chose de blanc qui se déplaçait entre les vieilles demeures à gauche lui fit lever les yeux, les écarquiller et freiner sec. une forme pâle se glissait dans la ruelle séparant deux maisons. Il eut le temps d'apercevoir une silhouette courte et large, des bras blancs et un vêtement clair, avant que l'apparition ne fût avalée par l'ombre.
Merde, c'est la mère Fauderge.
La ruelle passait entre la vieille demeure de Madame Fauder et la maison voisine aux fenêtres maintenant occultées par des planches qui avaient été celles de Madame Dugan.
Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici, la mère Fauderge ?
Il allait se remettre en route lorsqu'il se rappela qu'il était censé surveiller l'institutrice.
O'Rourke se fout le doigt dans l'œil s'il croit que je vais suivre cette vieille sorcière tout le temps. Je ne l'ai pas vu filer 25, lui, cet après-midi, ni les autres d'ailleurs. Mike est très fort pour donner des ordres, et les autres patates adorent lui obéir. Moi, j'ai passé l'âge de ses enfantillages. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans cette ruelle ? Elle sort sa poubelle, espèce d'idiot.
Mais les ordures n'étaient ramassées que le mardi, et la Fauder n'avait rien à la main. En plus, elle était sur son 31 avec cette espèce de robe rose qu'elle avait mise la veille des vacances de Noël.
Où est-ce qu'elle peut bien aller ? C'est O'Rourke qui serait surpris si j'étais le seul de leur cyclopatrouille à la noix à avoir réellement appris quelque chose sur la personne que je suis censé filer, de préférence, une nouvelle à sensation. Par exemple, que la mère Fauderge profite de la séance gratuite pour s'envoyer en l'air avec Rune ou l'horrible Van Syck. Ah, blurk !
Il traversa la rue, cacha sa bicyclette derrière des buissons et risqua un œil dans la ruelle. La silhouette pâle était tout juste encore visible. Elle était déjà arrivée presque au bout du raccourci vers Third Avenue. Arlen resta à l'affût quelques secondes. Puis il pensa que son vélo serait trop bruyant et continua à pied, se glissant de tache d'ombre en faisant attention à ne pas se prendre les pieds dans une poubelle. Il craignait un aboiement de chien, mais le seul dans le coin était le vieux Dexter que ses maîtres, les Gibson, traitaient comme un enfant. Il était probablement sur leurs genoux en train de regarder la télévision. La mère Fauderge traversa Third Avenue, longea la pension où vivait Rune et s'engagea sur le terrain de jeu de l'école.
Merde, elle est juste allée chercher quelque chose dans sa classe. Mais comment ?
En rentrant en ville après cette virée idiote à la grotte, lui et les autres avaient remarqué les planches clouées sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée d'Old Central et les chaînes munies de gros cadenas fixées aux deux portes d'entrée. Madame Fauder, qu'Arlène avait clairement reconnue dans la lumière du lampadaire au coin de la rue, disparut dans l'obscurité au pied de l'escalier de secours et il se cacha derrière un peuplier de l'autre côté de l'avenue. Même à cette distance de deux pâtés de maison, il distinguait la musique du film qui commençait. Il entendit ensuite des raclements de talons sur les marches métalliques et entrevit des bras pâles qui s'accrochaient à la rampe de l'escalier de secours. Une porte s'ouvrit en grinçant au premier étage.
Elle a sa clé !
Pour quelle raison la mère Fauderge pouvait-elle faire cette visite nocturne un samedi soir pendant les vacances à une école certainement vouée à la démolition ?
Merde ! Elle doit s'envoyer le père Rune !
Arlène essaya d'imaginer Madame Fauder étalée en travers de son bureau en train de folâtrer avec Rune, mais son imagination ne fut pas à la hauteur. Après tout, il n'avait jamais vu de couple en pleine action. Même dans les magazines cachés dans son placard, il n'y avait que des filles seules qui jouaient avec leur rotoplot et se comportaient comme si elles étaient prêtes à faire l'amour, mais ça ne décrivait pas le passage à l'acte. Il sentit son cœur cogner à grands coups dans sa poitrine en attendant qu'une lumière s'allume au premier étage.
Rien.
Il fit le tour du bâtiment en rasant le mur pour qu'on ne puisse pas le repérer de là-haut.
Toujours pas de lumière. Ah ! Une petite lueur sur la façade nord-ouest, une légère phosphorescence à la fenêtre d'une pièce au coin du bâtiment. La classe de Madame Fauder. La classe d'Arlène cette année.
Comment voir ce qui se passait ? Les portes étaient cadenassées et les fenêtres du sous-sol munies de barreaux métalliques. Alors, l'escalier de secours à la suite de la mère Fauderge ?
Mais s'il la rencontrait sur les marches, ou pire encore, dans le couloir obscur du premier étage ?
Il abandonna rapidement cette idée. Le garçon resta quelques minutes immobile à regarder la lueur passer de fenêtre en fenêtre, comme si la vieille se promenait dans la classe avec un bocal de lucioles à la main. Des rires venaient de la direction du square. On devait passer un film comique. Arlène examina les alentours. Au coin de l'école se trouvait une benne à ordures. En y grimpant, il pourrait atteindre un étroit rebord à 1,80 m du trottoir. Un tuyau de gouttière fixé par des attaches métalliques le mènerait au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée jusqu'à une moulure décorant le bâtiment. Il n'aurait plus qu'à continuer le long du tuyau entre les deux fenêtres. Les prises ne manqueraient pas. Il glisserait le pied dans les creux de la moulure en cas de besoin. Il se retrouverait sur la saillie qui faisait le tour de l'école au niveau du premier étage, à environ 50 cm sous les fenêtres. Elle devait mesurer une dizaine de centimètres de large. Il l'avait assez souvent examinée par la fenêtre de sa classe pour le savoir. Il y avait même nourri les pigeons en déposant des miettes trouvées au fond de ses poches un jour où il était consigné pendant la récréation. La saillie n'était pas assez large pour qu'il pût rester debout sans se tenir, mais assez pour y poser les pieds en s'accrochant au tuyau. Il n'aurait plus qu'à se pencher de côté et à lever les yeux pour regarder à travers le carreau. La lueur à la fenêtre s'intensifia, diminua, revint. Harlène commença à escalader la benne, s'arrêta, regarda au-dessus de lui. Les plafonds étaient hauts dans cette bon Dieu d'école. Il y avait 6 mètres jusqu'à la fenêtre qui l'intéressait, et en bas, des dalles de ciment et du gravier. «
Allez, hop ! Je voudrais bien t'y voir, O'Rourke !»
murmura-t-il. Il commença son escalade. Ce samedi soir-là, Mike gardait sa grand-mère. Ses parents étaient sortis et il se retrouvait seul à la maison avec ses 4 sœurs et Memo. En théorie, c'était Mary, l'aînée de la famille, qui, à 17 ans, était responsable de tous les autres. Mais son petit copain était venu la chercher 10 minutes après le départ de Monsieur et Madame O'Rourke. Mary n'avait pas le droit de sortir quand ses parents étaient absents, mais dès que son petit ami boutonneux était apparu dans sa vieille Chevrolet, elle l'avait rejoint en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, après avoir fait jurer le secret à ses sœurs et menacé Mike de le tuer s'il mouchardait. Mike s'en moquait. Il est toujours bon d'avoir en réserve un argument de chantage le jour où le besoin s'en fait sentir. Margaret, Peg, 15 ans, s'était donc trouvée promue responsable, mais 10 minutes après le départ de sa grande sœur, deux de ses amis escortés de 3 garçons de son école étaient venus la chercher pour aller à la séance gratuite. Bella, 13 ans, fut à son tour chargée de la maisonnée, mais Bella ne se chargeait jamais de rien. Mike pensait parfois que jamais petite fille n'avait été plus mal nommée. Alors que tous les autres enfants O'Rourke, y compris Mike, avait de beaux yeux et une grâce toute irlandaise, Bella était grosse avec des yeux ternes et des cheveux encore plus ternes, un teint jaune déjà ravagé par l'acné et une attitude amère rappelant celle de sa mère dans ses plus mauvais moments ou celle de son père quand il avait bu. Elle s'était tout simplement enfermée dans la chambre qu'elle partageait avec sa petite sœur Kathleen, 7 ans, et avait refusé de lui ouvrir malgré ses larmes. Kathleen était la plus jolie des filles O'Rourke, avec sa chevelure flamboyante, des yeux bleus, un teint rose et un sourire éclatant qui donnait envie à son père d'évoquer les légendes d'une Irlande qu'il n'avait jamais connue. Kathleen était belle, mais aussi un peu simplette. À 7 ans, elle était toujours au jardin d'enfants, et quand il la voyait se donner tant de mal pour comprendre des choses très simples, Mike allait parfois cacher ses larmes dans la cabane au fond du jardin. Tous les matins, en servant la messe, il priait pour que Dieu arrange ce qui n'allait pas dans la cervelle de sa petite sœur. Mais jusqu'à présent, il avait ignoré ses prières. La lenteur de Kathleen était devenue de plus en plus évidente et les fillettes de son âge, qui lisaient maintenant couramment et résolvaient des problèmes d'arithmétique, avaient laissé la petite demeurer loin derrière elle. Ce soir-là, Mike la consola, lui prépara à dîner et l'aborda dans le lit de Mary, dans la mansarde. Puis il descendit s'occuper de Memo. Mike avait 9 ans quand Memo avait eu sa première attaque. Il n'avait pas oublié la panique de toute la famille lorsque la vieille dame si loquace qui siégeait dans la cuisine était devenue du jour au lendemain une mourante gisant dans le salon. Memo était la mère de sa mère, et bien que Mike ignorât le mot matriarcat, il en connaissait la personnification. Une vieille femme, en tablier à pois, toujours affairée à la cuisine ou en train de coudre au salon, c'était elle qui résolvait les problèmes et prenait les décisions. Il l'avait entendue, avec son fort accent irlandais, réconforter sa fille lorsqu'elle était déprimée ou gronder son gendre lorsqu'il avait passé la soirée à boire avec des copains. Memo avait également sauvé financièrement la famille quand, la brasserie ayant licencié du personnel,
le père de Mike s'était retrouvé sans travail pendant un an. Mike avait alors 6 ans, mais il se souvenait encore des conversations à la table de la cuisine durant lesquelles son père refusait de toucher aux économies de Memo, bien que celle-ci insistât. Memo avait aussi littéralement sauvé la vie de Mike et de Kathleen. Celle-ci avait 4 ans et son frère 8 lorsqu'un chien enragé avait descendu Depot Street. Mike, jugeant son regard étrange, avait reculé et crié à la petite fille de ne pas s'approcher. Mais Kathleen aimait bien les chiens et avait couru vers l'animal. Quand elle s'était retrouvée à 1 mètre de l'animal qui se préparait à charger, Mike n'avait pu qu'hurler d'une voix suraiguë qu'il n'avait même pas reconnue comme la sienne. C'est alors que Memo avait surgi armé d'un balai, son tablier à pois flottant autour de la taille, ses cheveux gris s'échappant de son foulard. Attrapant Kathleen d'une main, de l'autre, elle avait balayé le chien avec une telle force qu'elle l'avait envoyé valser au milieu de la rue. Ensuite, elle avait poussé la petite fille dans les bras de son frère en lui ordonnant d'une voix calme mais impérative de rentrer. Puis elle s'était retournée juste au moment où le chien se relevait et attaquait. Tout en courant, Mike avait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et jamais il n'oublierait le spectacle de Memo debout, bien campé sur ses jambes, le foulard autour du cou et attendant. Plus tard, Barney avait dit que c'était la première fois qu'il voyait un chien tué à coups de balai, surtout un chien enragé. Mais Madame Houlihan avait presque arraché la tête du monstre. C'était Barney qui avait parlé de monstre et après cet incident, Mike avait été persuadé que Memo saurait se défendre contre tous les monstres hantant la nuit. Et puis, moins d'un an plus tard, Memo avait été terrassé. Sa première attaque très grave l'avait laissé paralysé et le docteur Weisks avait dit qu'elle n'en avait plus pour très longtemps. Le salon avait été transformé en chambre de malade et tous avaient attendu la fin. Mais Memo avait passé l'été et à l'automne, elle pouvait communiquer en clignant des yeux. À Noël, elle parlait, bien que seule sa famille soit en mesure de la comprendre. À Pâques, elle avait suffisamment lutté pour pouvoir se servir de sa main droite et s'asseoir, mais 3 jours après Pâques, elle avait eu une seconde attaque et une troisième 1 mois plus tard. Depuis 18 mois, elle n'était plus qu'un légume gisant au salon, le visage jaune et desséché, les mains tordues comme les serres d'un oiseau mort. Elle avait perdu la maîtrise de toutes ses fonctions corporelles et ne pouvait communiquer qu'en clignant des yeux. Mais elle était toujours en vie. Mike entra dans le salon. Il commençait à faire sérieusement noir dehors et il alluma la lampe à pétrole. Leur maison avait l'électricité, mais Memo avait toujours préféré avoir ce genre de lampe dans sa chambre et ils utilisaient maintenant ce mode d'éclairage au salon. Il s'approcha du grand lit. Sa grand-mère était couchée sur le côté droit, face à lui, sa position habituelle, sauf quand on la retournait une fois par jour pour éviter au maximum les escarres. Son visage était un labyrinthe de rides, creusant une peau jaune et cireuse qui n'avait pas l'air d'appartenir à un être humain. Les yeux noirs le regardaient fixement, vides d'expression, un peu exorbités, comme si elle était soumise à une terrible tension interne, peut-être due à la frustration de ne pas pouvoir communiquer. Elle bavait et Mike prit une des serviettes propres déposées au pied du lit pour lui essuyer doucement la bouche. Il vérifia qu'elle n'avait pas besoin d'être changée. Il n'était pas censé aider ses sœurs dans ce travail, mais comme il passait auprès de Memo plus de temps que tous les autres membres de la famille réunis, les besoins naturels de sa grand-mère n'avaient plus de secret pour lui. Elle n'était pas mouillée. Il s'assit sur la chaise basse à son chevet et lui prit la main.
Il faisait beau aujourd'hui. « Memo ?»
chuchota-t-il. Il ne savait pas pourquoi il lui parlait toujours à voix basse, mais il avait remarqué que les autres, y compris sa mère, faisaient de même.
« On se sent vraiment en été maintenant. »
Dans un coin, il y avait un vieux tourne-disque, et il avait mis un des disques préférés de la vieille dame, Caruso dans le Barbier de Séville. La voix de ténor et les craquements de l'aiguille remplirent la pièce. Memo n'eut aucune réaction, pas même un clignement d'yeux. Mais Mike pensait qu'elle entendait quand même. Il essuya la salive qui coulait sur son menton, tapota son oreiller et, se rasseyant, reprit dans la sienne la main sèche et inerte.
« Papa et maman sont à la soirée du Silver Leaf, » murmura-t-il en essayant de prendre un ton allègre. « Mary et Peg sont allés au cinéma. Dale m'a dit qu'il passait la machine à remonter le temps à la séance gratuite de ce soir. C'est l'histoire d'un type qui voyage dans le futur, quelque chose comme ça.
Il se tut et regarda attentivement la vieille dame. Elle avait eu un très faible sursaut.
C'est une drôle d'idée, hein, Memo, d'aller dans le futur. Dale prétend qu'on y arrivera un jour, mais Kevin dit que c'est impossible, que ce n'est pas du tout comme un voyage dans l'espace comme ont fait les Russes avec leur Spoutnik. Tu te souviens quand on a regardé ça à la télévision il y a 2 ans? J'ai dit que la prochaine fois, ils enverraient un homme et tu as répondu que tu aimerais bien faire partie de l'expédition. En tout cas, Kevin assure que voyager dans le futur ou le passé, c'est impossible parce qu'il y aurait trop de para...
Il essaya de se souvenir du mot. Il détestait avoir l'air bête devant Memo, car elle avait été la seule de la famille à ne pas considérer son redoublement à l'école comme une preuve de stupidité.
Ah oui, il y aurait trop de paradoxes. Comme, par exemple, si en remontant le temps, on tuait accidentellement son grand-père.
Il se tut, embarrassé par ce qu'il venait de dire. Son grand-père, le mari de Memo, avait été tué 32 ans auparavant lorsqu'une trappe en métal avait cédé, déversant des tonnes de maïs dans la fosse du silo qu'il était en train de nettoyer. Il avait entendu son père raconter que le vieux David Houlihan avait nagé dans les tourbillons de grains comme un chien dans une rivière en crue, jusqu'à ce qu'il soit étouffé. À l'autopsie, on avait découvert que ses poumons étaient remplis de poussière, comme des sacs de son. Il regarda la main de la vieille dame et lui caressa les doigts tout en se rappelant une soirée d'automne 4 ou 5 ans auparavant.
« Mike, lui avait-elle dit, ton grand-père est parti quand la mort est venue le chercher. Mais lorsque la faucheuse en robe noire est entrée dans le silo et a pris mon cher David par la main, il ne s'est pas laissé faire, tu sais. Il s'est battu jusqu'au bout, ça oui. Et c'est exactement ce que je ferai, mon lapin, quand elle essaiera d'entrer ici. Je me battrai moi aussi. Je ne la laisserai pas m'emmener sans me défendre. Non. » Tu peux en être sûr, je lui donnerai du fil à retordre.
Après ça, Mike avait toujours vu la mort sous les traits d'une vieille en robe noire et imaginé Memo en train de la terrasser d'un coup de balai, comme le chien enragé. Il se pencha vers elle, la regarda dans les yeux, comme si le fait d'être tout près d'elle pouvait l'aider à communiquer. Il y vit son propre visage reflété, déformé par la courbe des pupilles et la lumière de la lampe à pétrole derrière lui.
« Je ne la laisserai pas faire ça, » murmura-t-il. « À moins que tu ne le veuilles. »
Son haleine agita quelques pâles duvets sur la joue de sa grand-mère. Le disque se tut, mais le grincement de l'aiguille dans les sillons usés continua. Mike, la main fermement posée sur celle de Memo, ne bougea pas. Assis à côté de son frère dans le square, Dale considérait les chauves-souris parlantes comme une histoire ridicule et déjà à demi oubliée. Comme il l'avait entendu dire en ville, on jouait la machine à remonter le temps, car M. Ashley Montaigu, propriétaire d'une salle de cinéma à Peoria, apportait souvent le film qu'il venait de passer là-bas. Et depuis que Dale avait lu le livre 1 an plus tôt, il mourait d'envie d'en voir l'adaptation cinématographique. Le vent faisait bruire les feuilles du parc, tandis que sur l'écran, Rod Taylor sauvait Yvette Mimieux de la noyade. Lawrence était à genoux, sa position habituelle lorsqu'il était passionné par quelque chose, et mâchonnait ses derniers grains de pop-corn en buvant de temps en temps une gorgée de soda. Les yeux écarquillés, il regardait le héros descendre dans le monde souterrain des Morlocks, serré contre son frère.
« Tout va bien, » murmura Dale. « Ils ont peur de la lumière et le type a des allumettes. »
Sur l'écran, le regard des Morlocks brillait d'un éclat jaunâtre, comme les lucioles dans les buissons de l'autre côté du square. Rod Taylor craqua une allumette et les monstres refluèrent en s'abritant les yeux derrière leurs bras bleus. Le bruissement des feuilles continuait. Dale leva la tête et vit que les étoiles étaient cachées par les nuages, pourvu que la séance gratuite ne soit pas interrompue par la pluie. Monsieur Ashley Montaigu apporta 2 haut-parleurs supplémentaires, mais le son n'en demeura pas moins plus métallique que dans un vrai cinéma. Maintenant, les appels de Rod Taylor et les cris des Morlocks se mêlaient au bruit des feuilles et au battement d'ailes des chauves-souris voltant dans les arbres. Lawrence s'approcha de Dale, maculant son jean de taches d'herbe et oubliant de manger son pop-corn. Il avait enlevé sa casquette et, comme il le faisait quand il avait peur, Il en mâchonnait la visière.
« T'en fais pas !» chuchota Dale en lui donnant une bourrade sur l'épaule. « Il va récupérer Winna !»
Les images multicolores continuèrent à scintiller sur l'écran, tandis que le vent se levait. Duane mangeait un sandwich tardif dans la cuisine lorsqu'il entendit le camion tourner dans leur chemin. Normalement, il n'entendait pas grand-chose de son sous-sol, surtout avec la radio, mais la porte à moustiquaires était ouverte, les fenêtres aussi, et tout était silencieux à la ferme, à part le chant des grillons et des grenouilles près de la mare et, de temps en temps, le bruit métallique de la porte de la mangeoire des cochons.
« Le pater rentre drôlement tôt ce soir, » pensa-t-il.
Mais il se rendit compte presque aussitôt que ce ne pouvait pas être leur camion. Le véhicule qui approchait était plus gros, ou bien il avait un moteur plus puissant. Il s'accroupit et regarda à travers la moustiquaire. Dans quelques semaines, le maïs l'empêcherait de voir le chemin à partir de la maison, mais pour l'instant, les premiers 300 mètres étaient encore dégagés. Pas de pick-up, pas de bruit de roues sur le gravier. Duane fronça le sourcil, grignota une tranche de saucisson et sortit. Il traversa sur la pointe des pieds le rond-point entre la maison et la grange, afin d'avoir une vue sur toute la longueur du chemin d'accès à la ferme. Il arrivait parfois que des gens l'empruntent, mais c'était rare. Et le bruit qu'il venait d'entendre était sans aucun doute possible celui d'un moteur de camion. Oncle Hart refusait d'utiliser un pick-up. Vivre à la campagne présentait selon lui déjà assez d'inconvénients, sans y ajouter celui de conduire le plus inesthétique moyen de locomotion inventé par l'industrie automobile américaine. Et ce bruit de moteur ne pouvait être celui de sa Cadillac. Le garçon resta sans bouger dans l'obscurité tiède, mangeant son sandwich et observant le chemin. Le ciel était sombre, le plafond bas, et le silence celui qui précède l'orage. Des lucioles scintillaient dans les fossés. Il finit son sandwich en se demandant qui, parmi les personnes de leur connaissance possédant un camion de cette taille, pourrait venir les voir un samedi soir.
Personne. Quelqu'un qui ramène le pater trop saoul pour conduire?
Cela s'était déjà produit, mais pas si tôt dans la soirée. Il aperçut des éclairs à l'horizon, vers le sud, trop loin pour qu'on entende le tonnerre. La brève fulgurance ne lui permit pas de distinguer les détails du camion embusqué, seulement sa masse sombre.
Quelque chose se frotta contre sa cuisse.
« Chut, vite » murmura-t-il. Il se baissa pour passer un bras autour du cou du collet. Le chien tremblait et faisait un drôle de bruit de gorge. Pas tout à fait un grognement, une sorte de feulement plutôt.
« Chut !»
Il serra la tête de l'animal contre lui, mais vite continua de trembler.
« S'ils sont descendus du camion, ils ne devraient pas être loin maintenant. » Mais qui ça peut bien être? Viens vite!
Tenant toujours le chien par son collier, il retourna à la maison, éteignit toutes les lumières, entra dans le capharnaüm que son père appelait son bureau et prit la clé du râtelier à fusil. Dans la salle à manger, il hésita un instant. Finalement, il laissa à leur place le fusil à canon superposé, le 30-06 et le calibre 12, pour choisir le fusil à pompe de calibre 16. Dans la cuisine, vite gémit et ses griffes écorchèrent le lino.
« Chut ! T'en fais pas, vite !»
Duane vérifia la culasse, actionna la pompe, la revérifia, leva l'arme à contre-jour pour s'assurer que le chargeur était vide. Les balles se trouvaient dans le tiroir du bas. Duane s'accroupit près de la table pour en glisser 5 dans l'arme, puis il en mit 3 de plus dans la poche de sa chemise de flanelle. Vite aboya. Duane l'enferma dans la cuisine, puis il entrebâilla le cadre de la moustiquaire d'une des fenêtres de la salle à manger et se glissa dehors. Il commença à faire prudemment le tour de la maison. La lumière de la grosse lampe d'entrée éclairait le rond-point et les 30 premiers mètres du chemin. Duane s'accroupit dans l'ombre des pommiers sauvages et attendit. S'apercevant que son cœur battait à tout rompre, il s'obligea à respirer lentement et profondément. Le chant des grillons et les autres bruits de la nuit s'étaient tus. Les milliers de tiges de maïs étaient absolument immobiles. Il vit d'autres éclairs vers le sud. Cette fois, il entendit le tonnerre 15 secondes après l'éclair. Duane aspirait sans bruit par la bouche, le doigt sur le cran de sécurité, respirant l'odeur de graisse de son arme. Vite avait cessé d'aboyer, mais il l'entendait aller d'une porte à l'autre dans la cuisine en griffant le lino. le jeune garçon continua d'attendre. Au moins 5 minutes plus tard, le moteur toussa, démarra, et les roues crissèrent sur le gravier. Toujours courbé, Duane entra dans le champ de maïs et suivit la première rangée jusqu'à l'endroit d'où il pouvait voir toute la longueur du chemin. Le camion recula, tous phares éteints, s'arrêta un instant, puis partit en direction du sud, vers le cimetière, l'Arbre Noir et Elmhaven. Duane sortit la tête du maïs et le regarda s'éloigner sans feu arrière. Il s'accroupit de nouveau entre les rangées vertes et s'installa, le calibre 16 sur les genoux, tendant l'oreille. 20 minutes plus tard, de grosses gouttes commencèrent à tomber. Duane patienta encore 3 ou 4 minutes avant de sortir du maïs et, restant dans l'ombre du champ, il fit un tour complet de la maison et de la grange. Tout paraissait normal. Il rentra dans la maison par la porte de la cuisine. Vite, agita la queue comme un chiot, regarda de ses yeux myopes son jeune maître muni d'un fusil et se mit à faire le va-et-vient entre Duane et la porte.
« Non, gros bêta, on ne va pas à la chasse aujourd'hui !»
dit Duane en sortant les balles et en les alignant sur la table.
« Mais je t'accorde une ration supplémentaire, et cette nuit, tu dormiras en bas avec moi. »
Duane s'approcha du placard et le battement de queue du chien s'accéléra. Après une courte averse, la pluie avait cessé, mais le vent courbait les tiges et agitait les branches des pommiers sauvages. Arlène s'aperçut qu'en fin de compte, ce n'était pas une escalade si facile que ça, surtout avec le vent qui se levait et soulevait la poussière du parking et du terrain de jeu. Il dut s'arrêter à mi-hauteur pour s'essuyer les yeux, au moins le bruit du vent couvrait le sien. Il se trouvait entre le rez-de-chaussée et le premier étage, à déjà presque 6 mètres au-dessus du niveau du sol, quand il se rendit compte de la stupidité de son entreprise. Que ferait-il si Van Syke ou Roon surgissait? À moins que ce ne soit Barney. Ah, c'est sa mère qui serait contente d'apprendre en rentrant chez elle que son unique rejeton était au trou avant d'être transféré à la prison d'Oak Hill. Arlène eut un léger sourire. Au moins, elle serait bien obligée de s'occuper de lui. Il escalada les derniers mètres de tuyaux, toucha du genou la saillie du premier étage et s'appuya un instant contre le mur pour se reposer. Devant lui, il apercevait au-dessus des ormes la lumière du lampadaire au coin de School Street et Third Avenue. Il était drôlement haut. Arlène n'avait pas peur des sommets. Lorsque l'automne dernier, avec ses copains, il s'était amusé à grimper en haut du grand chêne derrière le jardin de Kangden, il avait battu O'Rourke et tous les autres. En fait, il était monté si haut que ses camarades avaient paniqué et lui avaient crié de redescendre, mais il avait tenu à poser le pied sur la dernière branche, si frêle qu'elle semblait ne pas pouvoir supporter le poids d'un pigeon, et à contempler de la cime cet océan de verdure cachant Elmhaven. Ce qu'il faisait aujourd'hui était un jeu d'enfant par comparaison. Mais il jeta un coup d'œil en bas et le regretta immédiatement. À part le tuyau et la moulure du coin, il n'y avait rien où prendre appui entre lui et la benne métallique sur le trottoir quelques 8 mètres plus bas. Il ferma les yeux, se concentra pour trouver son équilibre sur l'étroite saillie, les rouvrit et regarda la fenêtre au-dessus de lui. Elle n'était pas à 50 cm, plutôt à 1 mètre, et il serait obligé de lâcher ce bon dieu de tuyau s'il voulait s'y accrocher. Et la lueur avait disparu. Il imagina la mère Foderche en dessous de lui, sortant de l'école et lui criant « Descends de là immédiatement, Jim Arlen !» Et après, elle ne pouvait pas lui faire redoubler sa 7e puisqu'il avait déjà son bulletin. Elle ne pouvait pas non plus l'empêcher d'être en vacances. Il sourit, prit sa respiration, bascula tout son poids dans ses genoux et avança centimètre par centimètre sur la saillie, collé au mur de briques, maintenu seulement par la force de friction et 10 centimètres de pierre. Sa main droite trouva le rebord de la fenêtre et ses doigts se fermèrent sur une espèce de sculpture décorative juste en dessous. OK. Il resta quelques instants immobile, la tête baissée, la joue frottant contre les briques. Il ne lui restait plus qu'à lever les yeux pour regarder à l'intérieur. À cet instant, une petite voix au fond de lui essaya de l'en empêcher. « Laisse tomber. Va à la séance gratuite. Rentre avant que maman revienne. » Le vent agita les feuilles autour de lui et lui envoya à nouveau de la poussière dans les yeux. Il jeta un coup d'œil au tuyau. Pas de problème, la descente serait bien plus facile. Et dire que cette patate de Jerry Deisinger le traitait de mauviette.
Mais ils ne sauront pas que je suis monté ici. Alors pourquoi tu l'as fait, trou du cul ?
Il pourrait toujours raconter son histoire à O'Rourke et aux autres, en arrangeant un peu l'histoire si la mère Foderche n'était venue chercher que son morceau de craie préféré. Il imagina leur surprise lorsqu'il leur raconterait son escalade et leur décrirait la mère Foderche et Roon en train de faire la bête à deux dos sur le bureau de leur ancienne classe. Il leva la tête et regarda par la fenêtre. Madame Foder n'était pas à son bureau à l'extrémité opposée de la pièce, mais assise à la petite table près de la fenêtre, à moins d'un mètre d'Arlène. La lumière n'était pas allumée, pourtant une pâle phosphorescence éclairait la classe d'une lueur malsaine. L'institutrice n'était pas seule. Et c'était de la silhouette à côté d'elle qu'émanait cette faible clarté, une silhouette assise elle aussi à la petite table, à quelques centimètres de la vitre derrière laquelle Arlène collait son visage. Il la reconnut aussitôt. Madame Dugan, l'ex-collègue et amie de Madame Foder, avait toujours été très mince. Mais elle avait encore maigri pendant les mois passés à lutter contre le cancer. Arlène se souvenait de ses bras semblables à des os recouverts d'une mince couche de peau tavelée de taches brunes. Aucun élève de leur classe ne l'avait vue durant les dernières semaines, mais la mère de Sandy Whittaker lui avait rendu plusieurs fois visite avant sa mort en février. Et elle avait dit à sa fille que vers la fin, elle était devenue un vrai squelette ambulant. C'était bien elle. Il jeta un coup d'œil à la mère Foderche, penchée en avant, le sourire aux lèvres, complètement absorbée par la présence de son amie. Puis son regard revint sur Madame Dugan. Sandy avait raconté qu'elle avait été inhumée vêtue de sa plus belle robe en soie verte, celle qu'elle avait mise le dernier jour de classe avant les vacances de Noël. Elle la portait toujours, mais le vêtement, pourri par endroits, brillait d'une étrange phosphorescence. Ses cheveux étaient coquettement ramenés en arrière et maintenus par ses habituelles barrettes d'écailles, mais ils semblaient sérieusement clairsemés et des plaques de crâne chauve luisaient comme des taches pâles. Des trous dans sa chevelure, comme des trous dans sa robe. Arlène distinguait, à un mètre de lui, la main de Madame Dugan posée sur la table, les longs doigts, l'anneau d'or beaucoup trop grand, l'éclat pâle des os. Madame Foder se pencha vers le cadavre de son amie et lui dit quelque chose. Celle-ci eut l'air étonnée et jeta un coup d'œil en direction de la fenêtre derrière laquelle Arlène était blottie. Il comprit à cet instant qu'on devait pouvoir le voir. La lueur illuminait son visage collé au carreau aussi clairement qu'elle éclairait les tendons des poignets de Madame Dugan, brillant comme des morceaux de spaghettis ou les sombres taches de pourriture sous la chair translucide, enfin, sous ce qui restait de chair. Du coin de l'œil, il vit la mère Foderche se tourner vers lui, mais il ne pouvait détacher son regard des plis de peau parcheminés sur la nuque de Madame Dugan et des vertèbres glissant comme de petits galets blancs sous la soie décomposée. Madame Dugan se retourna et le regarda. À 60 centimètres de lui, le regard phosphorescent traversait la tache sombre marquant l'emplacement de son œil gauche et ses dents brillaient dans un sourire sans lèvres. Elle se pencha vers lui comme pour l'embrasser à travers la vitre. Aucune buée ne vint troubler le carreau. Arlène se leva et voulut s'enfuir. Il avait oublié qu'il se trouvait sur une étroite saillie à 8 mètres au-dessus du trottoir en ciment. Mais même s'il s'en était souvenu, il aurait fait pareil. Il tomba sans un cri.